Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance sur l'océan et le climat. Donc, cette semaine, en fait, nous allons parler essentiellement de calottes de glace d'événements de Heinrich 1. Donc, il fait froid aujourd'hui, 1er avril, il neige à Paris. Mais on va continuer de parler en fait, de périodes beaucoup plus, avec des conditions beaucoup plus rudes, avec des climats différents de l'actuel. Et continuer donc notre périple au cours de la dernière déglaciation et en particulier l'événement de Heinrich 1. Je vous ai parlé la semaine dernière de cette phase post-glaciaire et pendant les dernières semaines de cette phase post-glaciaire, de remontée du niveau de la mer, de fonte des calottes de glace, en particulier de la calotte Laurentide et de la calotte Fennoscandienne sur le nord de l'Europe. On a vu la semaine dernière, je vous ai parlé de flux des rivières, on a vu qu'elles étaient réactivées de façon très précoce pendant la déglaciation. Je vous ai parlé aussi de d'effondrement des calottes de glace, en particulier de la Laurentide. Donc ici, encore une fois, une planche que j'ai déjà montrée la semaine dernière, avec cette fameuse calotte Laurentide qui recouvrait le Canada, avec l'équivalent en gros à l'Antarctique sur le Canada. 4 km de glace d'épaisseur qui, de temps à autre, et en particulier pendant la dernière déglaciation, s'était effondré en éjectant des icebergs qui contiennent bien évidemment de l'eau douce et qui ont donc eu un impact, comme on l'a vu, sur la circulation océanique, en particulier au travers de ce changement de la salinité qui a un impact, comme on l'a vu, sur la densité de l'eau de mer et donc sur la convection. Et on a vu qu'il n'y avait pas de fossiles de ces icebergs, mais par contre, on pouvait retrouver dans les sédiments des petits cailloux, quelquefois transportés par les icebergs, ces fameux sédiments détritiques, ou IRD, comme Ice Rafted Debris, que l'on peut retrouver pratiquement dans tout l'Atlantique, comme on va le voir. Comme on va le revoir, je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit qu'on arrivait à les tracer, leurs sources principalement jusqu'à la calotte Laurentide et la baie d'Hudson. On avait vu aussi dans les cours précédents que ces énormes calottes de glace, au même titre que les glaciers plus petits, érodent et transportent en fait du matériel. Donc un impact important sur la circulation globale de retournement ou circulation méridienne de retournement, souvent étudiée en Atlantique, principalement, donc là, on utilise le vocable amok pour cette. Mais encore une fois, il s'agit, ou alors on peut utiliser aussi le terme qui est inapproprié au point de vue des causes de circulation thermohaline. Encore une fois, toutes ces dénominations ont leurs avantages et désavantages. Il s'agit en fait d'une circulation qu'on peut simplifier, encore une fois, à l'extrême. On a vu une vue beaucoup plus complexe, et je vous ai fait un petit point sur les variabilités récentes et sur ce qu'est effectivement cette circulation globale de retournement, mais ici, juste deux rappels que l'on a vu la semaine dernière, donc une connexion à très grande échelle entre les bassins Pacifique et Atlantique, avec transport de masse d'eau à la fois en surface et en profondeur. On a vu que le transport en particulier était du sud vers le nord dans l'Atlantique et que ces masses d'eau, cette circulation importante, transportait de la chaleur, 1 pétawatt, 10 puissance 15 watts, et que donc ça avait bien évidemment des conséquences sur le climat autour de l'Atlantique, sur le continent à la fois nord-américain et sur l'Europe. Et que dès qu'il y a perturbation en fait, de cette circulation thermohaline ou amok, on a des coups de froid qui peuvent intervenir. Enfin, on a un transfert de chaleur des tropiques jusqu'au pôle qui sont réduits, et donc un impact climatique très important. On a vu aussi que dans à la fois des modélisations et, comme on l'a rappelé aussi, dans les évidences paléoclimatiques, pas encore dans les évidences des dernières décennies, mais on a la preuve en fait que cette circulation globale de retournement est très sensible en fait aux perturbations hydrologiques et que, en tout cas dans la modélisation, elle pouvait, dans certains modèles, dans des modèles à la fois simplifiés et maintenant dans des modèles tridimensionnels entre guillemets complets, elle pouvait s'effondrer avec, encore une fois, une une caractéristique d'hystérésis en fonction de la perturbation des flux d'eau en Atlantique Nord, avec à la fois pour les mêmes contraintes climatiques, on peut très bien avoir une circulation qui est très faible ou une circulation assez forte, et on passe de l'un à l'autre de façon assez abrupte en passant un certain seuil, que l'on appelle un seuil de bifurcation, pour tomber, entre guillemets, dans un mode sans circulation profonde. Alors, dans tous les cas de figure, je vous ai dit aussi que, à la fois, on a des évidences de mesures océanographiques sur le fait que cette circulation méridienne est variable dans le temps, on s'attend, ça c'est la modélisation aussi qui le dit avec des comparaisons entre beaucoup de modèles, que dans le prochain siècle, il y aura un ralentissement. Pour l'instant, il n'y a pas d'effondrement, mais un ralentissement qui peut être conséquent, hein, de l'ordre du tiers ou du quart du transport. Le transport, je vous le rappelle, il est de l'ordre de 15 à 20 millions de mètres cubes par seconde, du sud vers le nord, et bien évidemment, en profondeur, la compensation est équivalente. Alors, dans les modèles climatiques, il est possible en fait de simuler l'effet thermique en fait de cette perturbation hydrique qui est liée en particulier au, comme on l'a vu pendant la déglaciation, on avait vu un flux des rivières, un flux des fleuves qui était important, fonte de la calotte de glace fennoscandienne. Je vous ai parlé du fleuve Manche, etc. Je vous ai dit qu'on pouvait aussi regarder les événements aussi. En mer Noire, bon là il n'y a pas de en mer Noire, mais dans ce cas-là il n'y a pas de connexion directe avec l'Atlantique Nord, mais encore une fois on voit que la déglaciation de la calotte fennoscandienne intervient de façon assez précoce, et donc de l'eau douce qui arrive à l'océan, et on a vu aussi ces événements de Heinrich où là carrément ce sont des icebergs, des armadas d'icebergs qui arrivent en Atlantique Nord et qui donc ont un impact, et ce genre de choses peut être simulé dans les modèles de façon approximative, c'est-à-dire qu'on impose on peut imposer à un modèle une perturbation hydrique en mettant, enfin, en introduisant dans le calcul, dans un modèle qui est stable, qui a sa vie propre climatique, et puis on peut perturber en fait sa circulation en injectant de l'eau douce ou en retirant du sel. Bon, c'est la même chose, mais on peut perturber en fait la densité de l'eau de mer en Atlantique Nord totalement délibéré dans le calcul. Donc là, il s'agit pas d'une, il s'agit de quelque chose qui est introduit a priori. On impose une perturbation. Elle n'est pas simulée, cette perturbation, par le modèle lui-même. On verra qu'à l'heure actuelle, justement, les meilleurs modèles peuvent avoir des couplages avec des calottes de glace ou des flux de rivière qui arrivent justement à perturber le modèle de façon spontanée. Mais là, il s'agit des premiers exercices en fait qui ont été faits pour essayer de simuler cet effet Heinrich ou effet de cette période en particulier de la déglaciation de 18 à 14 500 ans avant le présent, avec un refroidissement important tout autour de l'Atlantique Nord, eh bien, c'est quelque chose qui a été simulé de façon approximative, avec à la fois des modèles complets, entre guillemets, océan-atmosphère, des modèles typiques, des modèles qui sont utilisés pour les projections de fin de siècle, ce qu'on appelle c'est la partie gauche ici. Bon, ce qui est représenté en fait, c'est sur cette planche qui résume beaucoup de travaux dans plusieurs laboratoires, dans plus d'une dizaine de laboratoires, ce sont les anomalies de température avec la même perturbation hydrique qui est simulée dans le calcul. Là, il s'agit d'une perturbation hydrique qui est énorme, qui est de l'ordre de 1 sverdrop d'eau douce injectée en Atlantique Nord pendant un siècle. De façon artificielle, donc de façon tout à fait délibérée dans le calcul, c'est un forçage finalement, c'est plus quelque chose qui est simulé de façon spontanée par le modèle, c'est un forçage externe qui, dans la plupart de ces modèles, en particulier les modèles simplifiés, ce qu'on appelle les EMIC, les modèles de complexité intermédiaire, c'est vrai à la fois pour ces modèles simplifiés et les modèles beaucoup plus complets avec une meilleure résolution et une meilleure simulation des effets à faible échelle. Dans les deux cas, on a un arrêt, enfin une perturbation hydrique qui va carrément stopper la circulation méridienne de retournement atlantique et qui va donc avoir un effet sur le flux de chaleur qui se ressent par une énorme anomalie de température atmosphérique on a ici donc des changements de température qui sont très importantes. Je m'aperçois que j'ai une échelle de température. Ici, vous voyez des changements de température qui peuvent aller jusqu'à moins 12, moins 14. Ce n'est pas les températures. Je vous rassure, c'est une anomalie de température par rapport à la température moyenne sans la perturbation. Et par effet de bascule, comme on l'avait vu, on a un effet de réchauffement dans toute la frange de l'hémisphère sud, à la fois dans les modèles simplifiés et les modèles à meilleure résolution. Mais encore une fois, une perturbation qui, elle, est imposée, mais qui a l'air d'avoir un impact qui est tout à fait reproductible. Alors, encore une fois, dans les détails, il faudrait regarder chaque modèle. Ici, il s'agit d'une moyenne de tous les modèles, séparés entre les modèles simplifiés et les modèles complets, les modèles GCM, de circulation générale. Et on voit qu'il y a une réponse qui est commune. Mais encore une fois, l'intensité, on peut regarder aussi dans ces différents modèles l'intensité de l'AMOC en sphère drop, voir si ça s'effondre ou quel est le changement. Il y a des variations, une variabilité dans les différents modèles. Tous les modèles ne présentent pas en particulier de boucles d'hystérésis, en particulier pour les modèles 3D, enfin GCM, mais encore une fois, quelque chose qui est tout à fait caractéristique. Lorsqu'on introduit une perturbation hydrique très importante, un sphère drop 10 puissance 6 mètres cubes par seconde sur 100 ans, en Atlantique Nord, dans les zones de convection, on a un impact absolument formidable mais encore une fois, c'est quelque chose qui est imposé. Alors, ici, un travail plus récent d'un laboratoire, de chercheurs essentiellement américains, d'un laboratoire de modélisation, le NCAR à Boulder dans le Colorado, où ils ont utilisé donc un modèle réaliste 3D couplant océan atmosphère de façon réaliste, donc un GCM complet. Et là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est avec beaucoup de temps de calcul, c'est de carrément faire une simulation de toute la déglaciation, donc les derniers, comme on a vu, 21 000 ans, pour voir les transitoires. Et en particulier, à un moment, ils injectent de façon artificielle de l'eau douce provenant des fleuves et de la contribution de ces icebergs de façon indéfinie, parce qu'en fait, quel que soit... ce qui est important, c'est que ce soit de l'eau douce, qui a donc un impact direct sur la densité. Et donc ça a un impact très important. Et là, ce qui est représenté, c'est pour l'événement, pour la période qui correspond à H1, à cette période donc, de Heinrich 1, on a une anomalie de température qui est équivalente à ce que je vous ai montré auparavant, sauf que là, c'est vraiment un calcul de transitoire sur 21 000 ans, mais encore une fois, l'injection d'eau douce, elle est imposée au modèle, donc on trouve ce qu'on a imposé quand même au modèle. Mais de façon plus réaliste au point de vue de l'injection d'eau douce, mais qui est directement calibré en fait, sur les données de niveau marin établies, comme je vous l'ai montré dans les précédents cours. Et dans ce cadre-là, en fait, ils ont imposé aussi une perturbation hydrique uniquement en provenance des calottes de l'hémisphère nord, sans se soucier de savoir si le niveau de la mer correspond aussi à des injections venant de l'hémisphère sud. On en reparlera dans la suite des cours. Mais donc on retrouve exactement ce phénomène de bascule bipolaire avec une anomalie positive, donc un réchauffement dans le sud, et une anomalie négative, donc un refroidissement très important, centré en particulier sur l'Atlantique Nord. Et la partie qui est juste en dessous représente en fait ce qu'on appelle les fonctions de courant exprimées en sphère drop. Donc l'intensité, ça représente l'intensité en fait de la circulation en fonction de la profondeur. Ici, vous avez des échelles de profondeur. En fonction des latitudes, de 30 sud jusqu'à 90 nord, donc c'est un transect, il faut imaginer un transect dans l'Atlantique, ces fonctions de courant exprimées en millions de mètres cubes par seconde, pour différentes périodes, la période glaciaire, donc le maximum de départ, 21 000 ans, la période qui correspond à H1, avec cette débâcle, et donc son impact sur la circulation méridienne de renversement, sur l'AMOC, et ensuite un retour après à des fonctions de courant normales, à une situation quasiment caractéristique de l'actuel. Donc ce qui est ici, les fonctions de courant sont représentées positivement s'il s'agit d'un flux vers le nord, et négativement, en bleu, si c'est un flux vers le sud. Je vous ai dit que c'était une convention pour les flux de chaleur aussi. Et donc, ici, donc, on voit très bien, entre 0 et 1 km, un flux vers le nord, un flux vers le sud, et effondrement, pratiquement, plus rien qui se pendant la période H1 avec très peu de flux vers le nord et un retour après de ces fonctions de courant. Donc on retrouve finalement cette perturbation hydrique a un impact sur la circulation, sur ces flux de chaleur et donc en retour un impact très important sur l'anomalie de température atmosphérique que l'on voit sur ces calculs d'anomalie de température. Alors tous ces calculs ils sont en fait spatialisés, on peut les regarder. On peut les étudier précisément pour des lieux géographiques donnés. C'est ce qu'ont fait les auteurs dans d'autres articles. Si c'est tiré d'une autre étude postérieure, où les chercheurs en fait ont regardé avec ce même modèle qui calcule avec un calcul depuis 21 000 ans jusqu'à quasiment l'actuel pour certaines fenêtres et pour certains lieux géographiques. Donc, ils peuvent comparer à la fois les données paléoclimatiques pour ces différents lieux géographiques avec les calculs du modèle de la transitoire de température. On peut regarder tous les paramètres climatiques, mais là, il s'agit de graphiques qui sont dédiés à la température. Donc, pour tous ces diagrammes, les trois parties de cette planche, en fait, vous montrent trois lieux géographiques. D'une part, le Groenland, ce qui se passe au Groenland, donc en Atlantique Nord, en Atlantique Sud et en Antarctique, directement sur l'Antarctique. Donc ce qu'on voit, c'est... les panneaux du haut ont été calculés en imposant... Parce que ça, c'est quelque chose qui est pratique avec les modèles. On peut mettre un par un les différents forçages, les différentes perturbations, ou on peut les introduire toutes et tous en même temps. Donc là, les panneaux du haut montrent en fait la perturbation, ce qui se passerait, quelle serait la température uniquement liée à l'effet de l'AMOC, à cet effet océanographique, mais encore une fois avec la perturbation hydrique ad hoc qui est imposée dans le calcul. Enfin, donc c'est quelque chose qui nécessite donc une intervention. Elle est considérée comme un forçage extérieur. Encore une fois, pour bien faire, il faudrait avoir des calottes en interaction avec le climat qui elles-mêmes fournissent l'eau douce, ainsi que des rivières. Mais pour l'instant, les calculs... se limite. Certains calculs, on va voir qu'il y a eu des progrès depuis, mais là, dans ces expériences de simulation sur 21 000 ans, les chercheurs ont pour l'instant uniquement imposé des perturbations hydriques avec un refroidissement au Groenland. Le Groenland montre aussi un refroidissement pendant cette période. Hein, c'est la courbe noire, ce sont les données fondées essentiellement sur les isotopes de l'eau, delta O18, puis bon, d'autres indicateurs de paléotempérature. Le Groenland ne présente pas un refroidissement très marqué, en fait. On voit que les simulations vont en fait plus bas. C'est probablement lié au fait qu'il manque, là il s'agit que de l'effet seul de la MOC, il manque d'autres forçages, en particulier pendant cette déglaciation. Il y a eu d'autres forçages. On a parlé, je vous ai rappelé que le forçage primaire, en fait, le pacemaker de ces glaciations-déglaciations, c'est en fait l'orbite terrestre, ce sont les variations de l'orbite terrestre. Donc, et quand on les introduit, ils sont tout à fait insuffisants pour produire ces glaciations et déglaciations, mais c'est en fait ce forçage qui va synchroniser en fait les changements climatiques importants. Mais en plus, il faut tenir compte d'autres forçages qui sont en fait pas des forçages au sens strict du terme, qui sont en fait des rétroactions, en particulier les gaz à effet de serre qui évoluent dans le temps. Je vous ai parlé du gaz carbonique, méthane et autres. Pendant la déglaciation, il y a eu de très gros changements, et c'est ça qui explique en grande partie le réchauffement pendant la déglaciation, au même titre que le réchauffement que nous voyons depuis un siècle. Mais dans ce cas-là, il s'agit d'effets naturels. Et pour l'instant, dans ces calculs, les GHG, là, les greenhouse gases, le CO2 en particulier, sont introduits de façon artificielle dans le calcul. C'est-à-dire qu'on va imposer, parce qu'on les mesure dans les carottes de glace, donc on connaît quelle est la teneur au cours du temps de ce gaz carbonique, et donc on peut l'introduire, mais au sens strict du terme, il s'agit d'une rétroaction climatique qui, dans l'absolu, un jour pourra être simulée de façon exacte dans des modèles tridimensionnels, complets, avec toutes les enveloppes. Mais dans le calcul, là, pour l'instant, ce qui est fait, c'est de prendre un modèle complet, océan, atmosphère, glace et autres, biosphère aussi, en introduisant de façon artificielle l'orbite terrestre, les changements de l'orbite terrestre qui constituent véritablement un forçage externe, L'effet de l'albédo de la glace, comme on l'a vu dans les précédents cours, donc c'est intitulé c'est le forçage ICE, le forçage des gaz à effet de serre et le forçage AMOC qui peut s'étudier seul, c'est le panneau du haut. Donc ce qu'on voit, c'est essentiellement au Groenland un refroidissement. Si on regarde en Atlantique Sud et en Antarctique, c'est l'effet de bascule bipolaire, on voit un réchauffement. Hein, on voit qu'à partir de 19 000 ans, ici, la température s'effondre, enfin diminue, alors que dans l'hémisphère sud, elle monte, en particulier ici pour l'Atlantique Sud. C'est vrai aussi pour l'Antarctique, mais il y a d'autres forçages. Il faut tenir compte du CO2, et quand on tient compte de tous les forçages, entre guillemets, eh bien, on arrive avec ce modèle en particulier à reproduire de façon assez fine les données de changement de température à la fois au Groenland, dans l'Atlantique Sud et en Antarctique. Donc je vous ai dit que cet effet de bascule bipolaire, eh bien, on peut l'étudier, on le voit très bien, notamment quand on regarde les changements, on retrouve en fait aussi le fait que le changement de température, il est très précoce en fait dans l'hémisphère sud. Par rapport à l'hémisphère nord, c'est ce que nous avions compilé avec des collègues et qui a été refait encore par la suite, mais avec ici donc un diagramme que je vous ai déjà montré qui correspondait à une compilation de toutes les séries temporelles disponibles à l'époque, bien datées, avec des changements de température quantifiés de façon réaliste avec des paléothermomètres de différentes natures, et on avait vu qu'en groupant de façon assez simpliste les changements de température de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, on arrivait à deux courbes, une courbe rouge, une courbe bleue, avec une différence, un retard de l'hémisphère nord. On voit ici un refroidissement un petit peu, un autre refroidissement vers 12 000 ans, et surtout, quand on fait la différence, on voyait aussi un réchauffement de l'hémisphère sud qui intervient dès pratiquement 19 000 ans, donc très tôt, par rapport à la déglaciation dans l'hémisphère nord. Et quand on fait la différence entre les deux, quand on calcule un gradient interhémisphérique de changement de température, on obtient cette courbe en W qui correspond, je vous l'ai dit, et on a vu d'autres marqueurs avec des indicateurs de l'intensité de cette circulation thermohaline, de méridienne de retournement, AMOC, en particulier le protactinium thorium, là, il s'agit d'une carotte au large des Bermudes, avec un effondrement, avec un rapport pratiquement équivalent au rapport de production de ces isotopes dans l'eau de mer, ce qui veut dire que à cette époque-là, l'océan était ne bougeait plus pratiquement, il y avait plus de transport, et donc on avait quasiment un flux vertical du protactinium et du thorium avec un rapport quasiment équivalent au rapport de production. Alors, ce refroidissement, en fait, très précoce, entre 18 000 ans et 14 500 ans, c'est quelque chose qui est intéressant d'étudier. Et en fait, ça fait assez longtemps en fait, qu'on le connaît. Je dirais même que en fait, le premier article qui vraiment a démontré l'existence de ce refroidissement qui correspond à l'événement de Heinrich I, l'événement donc, qui a été baptisé Heinrich I par la suite. Je vous rappelle que j'en ai parlé la semaine dernière, mais le papier en fait de Hartmut Heinrich qui montre en fait qu'il y a eu plusieurs, c'était ça la contribution en fait de Hartmut Heinrich, qui a découvert ces couches de sédiments correspondant aux débris rocheux venant des icebergs provenant de la Laurentide. Donc il en a vu une récurrence pendant la glaciation. Il y en avait une dizaine de ces événements. Et donc c'est ça qui constituait en fait la découverte de ces événements de Heinrich. Mais en fait l'événement de Heinrich I, il était déjà, et en particulier l'impact sur la température, l'événement de température, le changement drastique de la température océanique, il a été mis en évidence. Et bon, je veux dire que le premier article qui montre en fait ce refroidissement intense de façon quantifiée et datée, c'est un papier que nous avions fait en fait il y a 35 ans. Qui est dont le dont la euh, le le graphique principal est résumé sur cette planche, où là, l'échelle de temps va de droite à gauche parce qu'il s'agit d'une échelle de profondeur. Les datations carbone 14 sont représentées ici. À l'époque, il n'y avait pas encore de calibration pour cette période, pas de calibration du C14, donc on était à peu près ici vers 14 000 ans. Et 14 000 ans, maintenant, on sait que ça correspond à 17 000 ans. Il faut ajouter 3 000 ans pour obtenir des âges calendaires. Mais en gros, on avait cette énorme anomalie de température au large. Ici, il s'agit d'une carotte qui avait été récupérée au large du Portugal, au sud du Portugal, au niveau de la marge ibérique, donc un effondrement de la température de plus de 7 degrés pendant, de façon transitoire, après le maximum glaciaire, vers 18 000 ans, et ensuite, ça remonte vers 14 500. Donc, on l'avait. Dans le papier... on n'est pas allé très loin dans l'interprétation. Bon, je me rappelle que ici il s'agit de ce que on avait écrit, de ce que j'avais écrit à l'époque, qui est tout à fait explicite. En fait, on avait effectivement identifié, proposé une cause qui est en fait la cause qui a été redécouverte ensuite et proposée. Mais effectivement, donc ce que l'on décrivait, c'était un changement de température de l'ordre de 7 degrés, et on avait poussé le bouchon assez loin en disant ça, which can surely be attributed to a pulse-like injection of large volume of ice or meltwater into the Atlantic. Je suis encore surpris de la façon définitive du ton de ce qu'on avait écrit. Bon, encore une fois, l'histoire a progressé ensuite. Hartmut Heinrich, l'année suivante, a vu en fait qu'il y avait récurrence de ces événements, et surtout, c'est lui qui a compris en fait qu'au milieu de l'Atlantique, ça correspondait à des événements avec des débris rocheux. Et donc cette hypothèse, bon, encore une fois, cette hypothèse de glace et d'eau de fonte qui viendrait de l'Atlantique, sans dire que ça venait ni de la Laurentide ou de la Fennoscandie, c'était un petit peu une façon, pas de se débarrasser du problème dans le papier, mais c'était, on n'avait pas beaucoup d'évidence. Et il nous a fallu en fait revenir 10 ans après, c'est ce que nous avons fait. En fait, on est revenu à étudier les mêmes sédiments plus de 10 ans après pour regarder le sédiment avec. Alors, on a ajouté d'autres thermomètres. Donc là, ici, il s'agit effectivement d'une échelle de exprimée en année calendaire avec une calibration correcte. Donc là, on a effectivement un axe temporel qui est correct. Avec les datations. On a ajouté d'autres estimations de paléotempérature avec un paléothermomètre beaucoup plus fiable, donc pour retrouver cet événement H1 de 14,5 à 18 000 ans avant le présent. Et surtout, on a effectivement fait l'effort de compter les débris rocheux, à la fois en regardant, en utilisant des techniques assez simple comme la susceptibilité magnétique, et d'autres techniques beaucoup plus, tout aussi simples, mais qui demandent beaucoup de temps, qui est le comptage sous loupe binoculaire et l'identification minéralogique de ces différents débris rocheux. Et à la différence, je vous ai montré la couche de Heinrich 1, je vous ai dit que c'est une véritable couche quand on s'approche de la mer du Labrador, de la baie d'Hudson, quasiment, ça fait, dans les sédiments, ça fait 50 cm à 1 mètre. Là, il ne s'agit pas de couche, il s'agit de quelques grains d'IRD microscopiques que l'on va retrouver. Il a fallu qu'on travaille en fait sur 10 grammes de sédiments pour en retrouver au maximum quelques dizaines. Donc c'est le petit pic en noir ici, donc vraiment très peu de choses. Et surtout, en fait, ce qui nous a intéressé, c'est de montrer que, alors on a travaillé aussi sur un indicateur de la salinité, avec une baisse de la salinité pendant l'événement de Heinrich 1. Donc là, c'est un indicateur de basse salinité. Donc c'est, bon, je passe les détails, mais c'est quelque chose qui a été étudié. On était les premiers à l'utiliser en fait pour cette étude des événements de Heinrich et de la déglaciation. Donc un indicateur qui montrait qu'effectivement, entre 18 000 ans et 14 500 ans, il y avait eu une baisse de salinité importante dans cette zone, encore une fois, au sud de la péninsule ibérique, pratiquement un peu au nord de Gibraltar. Donc on est vraiment très loin de la source. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que ces icebergs, ils proviennent, qui ont déposé ces grains, proviennent de la baie d'Hudson, carrément de l'autre côté de l'Atlantique. Donc il faut imaginer que c'était quand même autre chose que la neige à Paris aujourd'hui. C'est des armadas d'icebergs qui traversent tout l'Atlantique pour arriver jusqu'au sud, jusqu'à pratiquement Gibraltar. Donc quelque chose de phénoménal. Et alors surtout, on avait, dans les détails, on avait aussi mis en évidence deux phases. Qu'on a baptisées avec des... Donc il y a essentiellement une phase A et une phase B, mais essentiellement les IRD plutôt dans la phase B, et certains, alors il y a eu des débats en fait pour interpréter nos données, certains voulaient voir les deux phases comme étant l'événement de H1 qui serait très long, donc plusieurs millénaires, de l'ordre de 3000 ans, d'autres, en particulier Gerald Bond nous disait, qui était un des pionniers du domaine, nous disait ça doit être un précurseur provenant de d'autres choses. Par contre, l'événement Heinrich, c'est vraiment la deuxième phase, ce que vous voyez ici, vers 14 500 ans et 17 000 ans. Mais par contre, la première phase, c'est un événement précurseur qui vient d'on ne sait où. Le problème, c'est qu'on avait aussi cette salinité qui baissait pendant tout l'événement. Donc encore des incertitudes. Et puis, encore une fois, je vous le rappelle, malheureusement, on n'a pas de fossiles des icebergs. Et un iceberg, s'il ne contient pas de débris rocheux, eh bien, s'ils font... il y a rien qui tombe au fond, et donc il est vu les faibles concentrations après le trajet depuis la mer du Labrador jusqu'à la marge ibérique dans tout l'Atlantique, il n'est pas impossible que certains icebergs aient perdu en fait de leur charge minérale ou que carrément dès le départ la première phase était avec des icebergs dépourvus d'IRD. On ne le saura jamais. Enfin, encore une fois, la science progresse, il y aura peut-être d'autres indicateurs et d'autres archives qui permettront de trancher, mais donc une complexité que l'on a commencé à voir en regardant dans le détail deux phases, mais encore une fois un coup de froid très important pendant pratiquement 3000 ans qui correspond à cet événement qu'en 87 ne s'appelait pas encore Heinrich 1, mais qui maintenant s'appelle, encore une fois, dans la littérature, les chercheurs parlent du stade, pour parler de l'événement au sens large, qui correspond à tout le stade froid de 18 000 ans à 14 500 ans, donc plus de 3000 ans, et quand on parle uniquement de l'événement de Heinrich, pour certains puristes, c'est uniquement la phase où on a effectivement ces IRD, ces débris rocheux, dont on peut retrouver la trace, qui sont caractéristiques minéralogiquement, isotopiquement, comme je vous l'ai montré, des roches qui ont été érodées sur le continent canadien et qu'on trouve au large du sud du Portugal. Alors, je vous ai montré la modélisation transitoire pendant toute la déglaciation. Je vous ai dit qu'il y avait une correspondance qui était assez impressionnante entre les données au Groenland, en Atlantique Sud, etc., et la modélisation transitoire, mais avec une transition où on injecte l'eau douce de façon artificielle. Eh bien, dans ce même modèle, on peut regarder la correspondance entre... on peut faire la comparaison entre la modélisation explicite qui est représentée ici en rouge en fonction du temps et les données que nous avons produites pour la marge ibérique en température. Et on voit que le modèle présente une baisse de température tout à fait conséquente, donc beaucoup plus forte que celle qu'on voit au niveau du Groenland, au moins en relatif. Donc on voit vraiment une anomalie de température très, très conséquente pendant pratiquement 3000 ans pour revenir à cette période plus clémente. Et donc une bonne correspondance entre la modélisation, mais encore une fois, cette modélisation, elle est à la fois complète dans la modélisation du couple océan-atmosphère glace de mer, banquise, mais elle est incomplète dans le fait que la perturbation hydrique, elle est imposée. Ce n'est pas quelque chose qui est généré par des calottes de glace qui viendraient fondre, ainsi que des rivières qui viendraient perturber le bilan hydrique de l'Atlantique Nord. Alors, une des difficultés de l'interprétation des événements de Heinrich, c'est aussi une des difficultés de vous l'exposer maintenant en cours, c'est que, comme je vous l'ai dit, la découverte de Heinrich, c'est pour ça qu'en 1987, quand on avait vu le coup de froid qui correspond à H1, on n'a pas été vraiment très entendu sur la cause qu'on avait proposée, mais ces événements sont récurrents. En fait, ils ont eu lieu pendant la glaciation. Il y en a une dizaine pendant la glaciation. Et il y a toute une littérature, en fait, pour proposer des causes pour ces événements de Heinrich. Alors, c'est une difficulté de l'exposer aujourd'hui, parce que là, il s'agit, on le verra dans la suite des cours, mais il s'agit d'événements récurrents qui vont bien au-delà dans le temps de la période du maximum glaciaire. Mais ça veut aussi dire que ces événements, ils sont peut-être pas tous équivalents. En tout cas, il y en a un, H1, qui intervient pendant la remontée, pendant ce réchauffement post-glaciaire, alors que les autres, eux, ces événements de Heinrich, n'ont rien à voir avec la remontée post-glaciaire, avec le réchauffement post-glaciaire, parce qu'ils ont eu lieu avant. Donc il n'est pas improbable que les causes ou les différents ingrédients soient différents pour les différents événements de Heinrich. Mais ça, c'est quelque chose que l'on verra dans la suite de cours. Mais j'aimerais quand même faire quelques rappels, justement, sur... Je ne vais pas être exhaustif sur les différentes causes de ces événements de Heinrich au pluriel, parce qu'encore une fois, le dernier, c'est H1, celui qui nous intéresse, mais on ne peut pas le regarder de façon indépendante des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet depuis 87 et surtout 88 et le papier éponyme de Hartmut Heinrich. Sur la cause de ces événements, il y a d'une part beaucoup de chercheurs qui ont proposé des forçages externes avec le soleil, le volcanisme a été proposé, les séismes et autres. D'autres chercheurs, on va le revoir un peu plus dans le détail, ont proposé que ces événements de Heinrich et ces instabilités étaient liés à des oscillations intrinsèques de la calotte, en particulier d'une calotte, mais en particulier la calotte laurentide, puisque essentiellement tous les IRD viennent de, comme je vous l'ai montré, de la calotte laurentide, de l'érosion du continent canadien, du bouclier canadien, donc une oscillation libre intrinsèque à la calotte, et en troisième lieu, un forçage avec des rétroactions, avec une interaction entre calotte de glace et les autres compartiments du système climatique, en particulier l'océan et l'atmosphère. Donc les trois classes, je dirais, de causalité ne sont pas exclusives l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des oscillations intrinsèques à la calotte qui vont être modifiées par interaction avec les autres compartiments, donc avec des rétroactions et avec les autres composantes. Et on peut même aussi avoir une synchronisation, pas pour tous les événements, mais pour certains, avec des événements de forçage externe qui vont avoir un impact sur le climat, avec des forçages externes. Donc les trois classes en fait, de causalité peuvent très bien être envisagées de façon complémentaire. Alors, la première hypothèse qui a été très populaire pour expliquer ces événements de Heinrich, c'était une proposition d'un glaciologue, Doug McHale, en 93, qui a proposé que ces calottes, en particulier la Laurentide, oscillaient, avaient été caractérisées par des oscillations internes, intrinsèques, avec une instabilité complètement indépendante des forçages externes. C'est-à-dire que là, on a un climat qui est constant, et on peut avoir une calotte qui va périodiquement perdre de la masse. Donc c'est ce que Doug McHale en 93 avait appelé le modèle binge purge, avec deux phases en fait, une phase de croissance de la calotte de glace et une phase beaucoup plus donc là il faut voir ça comme un cycle que l'on tourne dans le sens anti-horaire, avec une phase lente, une phase très longue d'accumulation de la calotte de glace et une phase beaucoup plus courte de purge de la calotte de glace, mais de façon totalement indépendante des forçages, un forçage constant. Donc un calcul qui, au départ, était fait avec des simplifications analytiques très très simples, où il avait considéré uniquement une accumulation verticale, c'est ce qui représentait en fait sur ces petits diagrammes. Ces diagrammes sur ce cycle en fait, représentent la hauteur de la calotte de glace, de la Laurentide, avec la petite barre ici bleue qui représente l'épaisseur, H, en fonction de la température, le profil de température dans la calotte de glace, qui est représenté en noir, les profils rouges et tous les profils rouges sur ces diagrammes représentent le gradient atmosphérique, avec une température très froide autour de la calotte, enfin au niveau de la calotte, au niveau de la mer. Donc c'est un gradient adiabatique altitudinal tout à fait typique, donc on a quelque chose. Et par contre, le gradient en vert, en fait, la courbe, enfin la droite verte dans ces diagrammes représente le profil à l'équilibre si on arrêtait la croissance de la calotte. C'est-à-dire que la température interne de la calotte en fonction de sa profondeur, en fonction, alors bien évidemment, en surface de la calotte, tout en haut, elle correspond à la température atmosphérique, donc les deux lignes se joignent en haut de la calotte, enfin au-dessus de la calotte, mais par contre, en fonction de la profondeur, eh bien le profil de température interne à la calotte, si on fait un trou de forage et qu'on mesure les températures, cette température va augmenter et si on laisse la hauteur constante, elle va tendre vers un équilibre qui est symbolisé par la couche, par la droite verte. Alors pourquoi est-ce que la température est supérieure à la température atmosphérique? C'est parce que la glace n'est pas transparente à la chaleur, elle a tendance à retenir la chaleur et en particulier le flux géothermique qui est représenté ici. Il faut imaginer que partout, en particulier au niveau du continent canadien, il y a un flux géothermique et que cette glace, eh bien, elle a tendance à garder la chaleur. Et en fait, donc le profil, quand la glace monte, eh bien, ce gradient, donc le gradient augmente, a toujours l'intention, est toujours en retard par rapport à l'équilibration vers le profil qui est représenté ici en vert. Donc le profil en fonction de la profondeur dans la calotte de glace est représenté toujours en noir, mais on n'est jamais à l'équilibre quand on a la croissance. Mais à un certain moment, en base de calotte, à cause de ce flux géothermique et de la diffusion de la chaleur qui n'est pas idéale, donc la glace n'est pas transparente à la chaleur, eh bien, on va avoir une température basale qui va dépasser la température de fusion de la glace et on va voir apparaître de l'eau liquide, qui est représentée ici là, avec de la couleur bleue. Et dans ce cas-là, dès qu'on a apparition d'eau liquide, on va avoir dégel en fait, en particulier du sédiment, et ça va fonctionner comme une savonnette. La calotte de glace s'effondre sur elle-même et elle va rejeter. Donc c'est une phase de purge et on va avoir une température qui va ensuite baisser de façon à... Alors il y a aussi un chauffage par friction à cause du mouvement. Donc il y a plusieurs phénomènes complexes qui peuvent être calculés de façon explicite dans un modèle simple. Et ensuite on repart dès que la température en base de calotte descend en dessous de la température de fusion, eh bien on va pouvoir repartir dans un cycle de croissance. Donc c'est ça le modèle binge-purge de Macaillal. Et bon, dans un modèle simple, très simple, qui est représenté ici, encore une fois, ici dans un diagramme hauteur en fonction du temps, eh bien on voit de façon très simplifiée une phase de croissance de la calotte qui serait indéfinie si on pouvait la laisser croître, mais à cause de ce réchauffement en base de calotte, il y a périodiquement une débâcle, un regel et ensuite une recroissance, donc une oscillation. On peut l'étudier aussi dans un diagramme hauteur en fonction de la température avec un cycle croissance jusqu'à atteindre la température de fusion et on a débâcle, diminution vers la hauteur minimum et retour vers un cycle de croissance. Avec des paramètres de façon très simple, en fait, Macaillal a pu calculer la périodicité du phénomène qui dépend essentiellement du flux de chaleur géothermique, du gradient adiabatique extérieur atmosphérique depuis le niveau de la mer, du coefficient de diffusion de la chaleur dans la glace, etc. etc. Et donc, la périodicité, il a pu calculer une périodicité qui était de l'ordre de quelques milliers d'années, de l'ordre de 7000 ans, ce qui correspond peu ou prou à la périodicité, encore une fois, qui n'est pas une vraie périodicité, les événements de Heinrich ne sont pas périodiques, mais c'est à peu près la récurrence observée. Donc il s'agit en fait d'un phénomène qui ressemble finalement à une... Là, on peut faire l'analogie avec la fontaine japonaise, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un flux d'eau avec un effet géométrique, un fonctionnement de fontaine où le flux d'eau peut être constant, mais à cause de la géométrie de ce système, on a un système de bascule à climat constant, formation d'une périodicité qui est complètement liée à la géométrie, à la mécanique du système. Donc c'est un peu équivalent, bon, de façon triviale, mais c'est bon, cela l'essentiel en fait du modèle binge-purge. Et on va voir que ce modèle binge-purge, ben, il a été maintenant simulé avec des modèles 3D de façon beaucoup plus explicite. Donc je vais y revenir ensuite dans la suite du cours. Alors les choses se sont compliquées, notamment parce que À suite notamment de nos travaux, de travaux d'autres collègues, ici il s'agit de travaux d'une équipe de Bordeaux, avec Francis Grousset et d'autres collègues aussi internationaux, qui ont montré en fait qu'il y avait, en disséquant les événements de Heinrich, on arrivait à voir plusieurs phases. Je vous ai dit que nous on avait vu deux phases, et bon, avec un précurseur et l'événement de Heinrich qui était la deuxième phase, avec les IRD. Ses collègues ont regardé, ont essayé de faire du traçage isotopique, strontium, néodyme, et bon, il y avait d'autres isotopes aussi, pour les différents événements de Heinrich. Donc là, il s'agit d'analyse, en fait, dans les grains d'IRD, dans ces grains de débris rocheux, en fonction de la profondeur. Donc là, l'âge progresse en fonction de la profondeur. Le H1 est situé ici, à 50 cm dans cette carotte. Et ce qui a été observé par ses collègues, c'était qu'il y avait une première phase avec une caractéristique isotopique, avec un traçage isotopique très différent de la deuxième phase. Et globalement, en fait, ce qui a été montré, enfin, proposé à l'époque, c'est que la première phase correspondrait à de la glace provenant de sources de glace européennes, Phénoscandie, où il y avait aussi, comme je vous l'ai montré, la calotte qui était située sur les îles britanniques, mais que la deuxième phase, elle, était effectivement correspondrait effectivement à cette érosion du Canada. Une proposition de montrant qu'il y avait une complexité des choses et qu'il y avait un précurseur, et donc c'était pas aussi simple en fait que le modèle de McHale avec un seul quelque chose qui viendrait uniquement et simplement de la calotte laurentide. Donc nous avions aussi identifié deux phases. Ici, il s'agit d'un graphique en fait qui récapitule un petit peu nos données publié en 2000, et avec la deuxième phase avec les IRD au large du Portugal, avec cet effondrement de température qui commence à 18 000 ans, mais le deuxième événement vient par la suite. Et ce qui était intéressant, c'est que d'autres collègues, à la fois américains et français, avaient étudié le protactinium dans ces sédiments, dans cette carotte en particulier, et il n'y avait que la deuxième phase qui était caractérisée par une augmentation, puisque là il s'agit d'un diagramme avec l'axe renversé, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. On tend vers le rapport de production uniquement pendant la deuxième phase pour ces sédiments au large du Portugal, alors qu'en plein Atlantique, eh bien, on retrouve cet effondrement du protactinium qui commence beaucoup plus tôt. Donc une complexité qui n'est pas totalement élucidée, il y a des différents sédiments, différentes carottes qui ne donnent pas forcément la même chose. Ici, une équipe de Cambridge a réétudié d'autres sédiments que les nôtres au large du Portugal. Et alors, il compare avec le protactinium qui a été établi dans les autres carottes. Il s'agit des mêmes données que ce que je vous ai montré auparavant. Tout l'événement de H1 au sens large, 18 000 à 14 500 ans, est grisé ici, correspond à ça. Et pour eux, les deux événements que nous avions identifiés correspondraient à la deuxième phase uniquement. Bon, pour l'instant, il y a encore des débats. Ils n'ont pas fourni en fait d'estimation de température en correspondance avec ce qu'ils ont montré. Il n'y a pas de protactinium dans cette carotte. Donc pour l'instant, il y a encore des incertitudes sur la démonstration du fait que les deux phases identifiées que nous avions identifiées correspondraient à la phase principale Heinrich 1, qui serait la phase entre 16 500 et 14 500 ici. Mais donc une complexité qui est indéniable. Un autre diagramme pour vous montrer, encore une fois, un diagramme qui est illustratif en fait, du fait qu'il y avait deux phases. C'est un autre travail où là, les chercheurs ont étudié H1 de façon particulière avec, en fonction du temps, dans une carotte, une seule carotte, ils ont fait à la fois les comptages d'IRD, ces fameux grains détritiques, ils ont regardé aussi les carbonates détritiques, et ils ont regardé aussi les températures, alors là avec un index qui est très fruste, qui est très basique, qui est juste le pourcentage d'un foraminifère très froid, mais qui montre en fait qu'il faisait très froid dès 18 000 ans, c'est ça le truc dans la démonstration, c'est que pratiquement on était à 100% de ce foraminifère froid, dès 18 000 ans, alors qu'il a fallu attendre la deuxième phase pour avoir un flux d'iceberg qui transporte ces IRD. comme nous l'avions proposé aussi. Et dans la même carotte, ils ont pu étudier le rapport delta C13, on en a déjà parlé, le rapport protactinium-thorium mesuré dans cette même carotte. Et dans ce cas-là, on voit que les deux indicateurs montrent quelque chose qui est assez précoce, vers 18 000 ans. Donc, encore une fois, deux phases apparemment. Il y a d'autres particularités et une complexité encore plus grande qui est venue aussi d'autres données. Souvent, en fait, en préparant les cours, faire des cours au Collège de France, c'est un bon test aussi pour quand les choses ne sont pas convaincantes. J'essaye à chaque fois de vous montrer des graphiques qui sont effectivement tirés de la littérature scientifique, publiés dans des journaux sérieux, donc, enfin, qui ont été évalués par les pairs et donc qui ne souffrent pas d'incertitudes et qui n'ont pas été controversés, qui n'ont pas été suivis de critiques et de commentaires et de réfutations. Mais donc tiré vraiment de la littérature, donc souvent ça oblige à utiliser des graphiques qui ne sont pas toujours artistiquement très jolis, avec cette gymnastique gauche-droite pour les axes temporels en particulier, mais au moins c'est directement issu de la littérature. Et assez souvent, ça m'arrive de voir que finalement, quand je suis obligé d'exposer de façon à un public qui est varié des graphiques provenant de la littérature, souvent, certains graphiques ne sont vraiment pas convaincants, et ça veut souvent dire en fait que c'est un peu le test du feu que de faire un cours au Collège de France, de montrer des graphiques, et quelquefois, quand ce n'est pas convaincant, c'est que finalement l'étude n'est pas très fiable, ou qu'il faut refaire des analyses. Alors, en préambule, c'était pour vous parler du prochain graphique qui vient après. Il y a certains chercheurs qui ont étudié de façon fine certains sédiments, mais en regardant les températures en profondeur. Alors, pour regarder les températures en profondeur, il y a des marqueurs de température, et dans ce cas-là, il faut travailler sur, en particulier, les foraminifères benthiques. Pour travailler sur les températures de surface, on va travailler avec, je vous en ai parlé au tout début du cours, certains paléothermomètres organiques ou autres, les foraminifères planctoniques en particulier, ceux qui vivent vraiment dans la tranche d'eau superficielle, et en faisant de la chimie ou de la chimie isotopique ou des comptages, parce que les différentes faunes varient en fonction des températures, mais il est possible aussi de reconstituer des températures en profondeur en faisant des mesures sur les foraminifères benthiques, ceux qui vivent sur le fond. Et si on veut avoir une idée du réchauffement à moyenne profondeur, mais il faut se placer dans des conditions avec des carottes qui sont à moyenne profondeur. Et donc là, c'est tiré, ce que je vous montre ici sur cette planche, c'est le résumé d'une étude qui a eu beaucoup de retentissement, publiée dans un journal sérieux qui sont les Proceedings de l'Académie américaine, avec essentiellement une carotte qu'ils ont étudiée pas très loin de la mer du Labrador, c'est cette carotte qui est représentée ici, à 1 km de profondeur, et ils ont prélevé les foraminifères benthiques, ils ont fait de la chimie, du magnésium-calcium, qui est un thermomètre, ils ont aussi étudié le delta O18, le rapport O18 au 16, qui est aussi, en première approximation, quand on corrige de certaines variations, qui nous donnent une information sur la thermométrie, et eux prétendent, en fait, voir, enfin, ils ont proposé qu'il y avait un réchauffement à 1 km de profondeur, alors qu'en surface, encore une fois, on a un refroidissement. Donc, c'est ce qu'ils ont proposé. Bon, les données sont en fait ce qu'elles sont. Ici, c'est un zoom entre 20 000 et 15 000 ans avant, et 13 000 ans avant le présent. Les données, bon, elles sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas très, très convaincant, en particulier parce qu'ils ont compté aussi les IRD qui sont représentés ici avec la courbe, la courbe bleue. Et eux sont effectivement très précoces. Ils interviennent à 18 000 ans et pas dans la seconde phase, comme on l'a vu, comme nous on le voit et qui a été vu par d'autres. Donc il y a encore des incertitudes. L'augmentation de température, elle est ce qu'elle est. Je vous laisse juge. Elle n'est pas forcément très convaincante, mais en tout cas, ce n'est pas un refroidissement, ça c'est clair. La courbe rouge présente les calculs par la modélisation en subsurface, réalisé avec le même modèle que je vous ai montré au départ. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, le modèle 3D couplant océan-atmosphère, montre en fait qu'en surface, c'est ce qui est représenté ici en haut, en fonction de la profondeur dans la colonne d'eau, en fonction du temps de 20 000 ans à 13 000 ans, eh bien, la température, elle est beaucoup plus froide en surface, mais par contre, à partir de la fonte, enfin de la perturbation hydrique qui a une conséquence sur la MOC, sur cette circulation méridienne de renversement, eh bien, en profondeur, on a un réchauffement. C'est ce qui est indiqué ici. On voit à partir de 200 mètres jusqu'à pratiquement 1500 mètres. Donc, c'est la courbe rouge qui est comparée aux données. Il simule, en fait, un réchauffement en subsurface. Alors, c'est quelque chose qui avait déjà été vu par des modélisateurs, en fait, qui avaient déjà étudié l'effondrement de la MOC de façon artificielle, c'est-à-dire qu'on injecte encore une fois de l'eau douce dans le modèle, dans un modèle de circulation, dans un modèle simplifié, un modèle de complexité intermédiaire, où ils avaient perturbé la circulation, et quand la perturbation hydrique de façon artificielle était introduite très haut en latitude dans les zones de convection d'eau profonde, comme on l'a vu la semaine dernière, eh bien dans ce cas-là, ça avait comme conséquence d'arrêter la circulation amoc, d'avoir une très grosse influence sur les températures de surface de l'océan, SST, Sea Surface Temperature, c'est la carte qui est présentée ici, ce sont des anomalies de surface après l'effondrement, donc on retrouve réchauffement au sud, refroidissement au nord, hein, l'anomalie de température est négative pour le vert et pour le bleu, mais par contre, en subsurface, ici il s'agit du calcul dans le même modèle, juste une carte à 300 mètres de profondeur, eh bien, dans certains cas, quand la perturbation hydrique était très au nord, eh bien, il y a une perturbation en fait, de la circulation intermédiaire et un réchauffement en fait, en subsurface. C'est quelque chose que l'on voit très bien en fait, dans la coupe qui est représentée ici, avec, en fonction de la profondeur, les anomalies de température, en fonction des latitudes, et on voit que pour la frange nord, tout à fait en surface, on est avec un refroidissement, mais par contre, en profondeur, 500 mètres, ici, vous voyez une bulle rouge, donc on voit cette simulation d'un réchauffement en subsurface. Bon, les données ne sont pas très impressionnantes. La modélisation, en plus, dans ce papier fait par Juliette Mignot et d'autres collègues qui étaient allemands, simulation, elle dépend, c'est ce qui a été démontré dans le calcul, elle dépend de là où on mettait l'eau douce. Et en particulier, si l'eau douce de perturbation hydrique était injectée dans l'Atlantique Nord à des latitudes un peu plus faibles, en particulier les latitudes qui correspondaient à la Manche ou autre, eh bien, dans ce cas-là, on n'avait pas ce comportement et toute la colonne d'eau se refroidissait. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes et ce comportement avec un réchauffement en subsurface et un refroidissement en surface, il est encore sujet à débat, en particulier parce qu'il faut représenter de façon relativement précise les fontes, et quand on le fait de façon artificielle, eh bien on met l'eau où on veut, et en fait, on trouve ce que l'on veut trouver. Mais encore une fois, dans cette étude, ils avaient bien fait le distinguo entre une injection de l'eau de fonte à très haute latitude, qui a ce comportement, avec une injection plus bas en latitude, correspondant ben, finalement au flux de fonte qui viendrait, ou au flux de fleuve, comme on l'a vu dans le cours précédent, où là, l'effet serait contraire. Alors, il s'agissait d'une modélisation réalisée avec un modèle simple. Ici, le même type de comportement a été simulé pendant toute la déglaciation. C'est toujours le modèle du NCAR, avec cette transition post-glaciaire et l'événement perturbé par la perturbation hydrique liée à cette perturbation pendant H1. Et dans ce cas-là, on retrouve, en fonction de la profondeur, donc en surface, on a un changement de température très important, un refroidissement dans l'hémisphère nord, un réchauffement dans l'hémisphère sud, et ici, une coupe dans l'océan en fonction des latitudes. Oui, j'ai perdu les latitudes, mais ici, on est dans on est dans la zone australe. J'aurais dû mettre les latitudes. L'équateur doit être ici, et toute la frange nord montre un refroidissement en surface, et par contre, en subsurface, en profondeur, 500 mètres de profondeur, voire moins profond encore, plus haut en latitude, on a carrément un réchauffement en subsurface. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien là, je vais être obligé de faire un petit rappel sur le mode de fonctionnement d'une calotte de glace. Je m'aperçois que l'heure tourne, mais je vais essayer d'être rapide sur cette partie. Une calotte de glace, en fait, elle fond de façon assez profonde, de façon à la fois simple et compliquée. La façon la plus simple, c'est de fondre en surface. Ici, vous avez des belles photos de lacs supraglaciaires formés par la fonte estivale au niveau du Groenland. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement, mais ce n'est pas très efficace pour faire fondre 4 km de glace. Il y a d'autres phénomènes qui vont intervenir, une complexité des mécanismes de déstabilisation, en particulier par la lubrification en base de calotte à cause de failles et de crevasses, avec pénétration de l'eau de fonte de surface vers l'interface entre la roche et la calotte ou le glacier. Et donc là, ça va avoir tendance à lubrifier et donc à accélérer le mouvement. Donc là, il s'agit de fonte en surface, mais qui va pouvoir pénétrer en profondeur. Et on a aussi un autre mode de fonctionnement qui est au niveau des calottes de glace qui avaient un débouché qui était suffisamment grande pour avoir un débouché sur l'océan et jusqu'à former ce que l'on appelle des barrières ou des plateformes de glace, en anglais ice shelf. Et alors, il s'agit de glace atmosphérique, c'est de la glace venant du continent, donc c'est de la glace, c'est pas de la glace de mer, c'est pas de la banquise. La banquise, elle est très peu épaisse. Ici, vous avez deux photos de la mer de la plateforme de glace de la mer de Ross. Vous voyez l'hélicoptère. Donc il faut imaginer qu'il y a dessous, il y a une épaisseur beaucoup plus importante encore. Donc c'est de la glace continentale qui vient déborder sur la mer, et donc on comprend bien qu'à ce niveau-là, il y a des échanges de chaleur, il y a des échanges d'eau aussi, entre la glace, formation d'iceberg, mais des échanges de chaleur qui peuvent se faire au niveau de l'interface océan-glace, et c'est quelque chose qui va être difficile à représenter dans les modèles si on veut le faire de façon explicite. Alors, au niveau de l'interface du contact entre l'océan et la calotte de glace, il y a des phénomènes qui vont se passer qui sont difficiles à représenter, qui sont difficiles aussi à étudier, mais qu'il va falloir prendre en compte. Et en particulier, il faut avoir à l'esprit que cette plateforme va mettre en contact directement l'océan avec formation d'iceberg, la calotte qui est... ici, il s'agit d'un détail. Voilà. Donc, vous avez un petit carré qui correspond au carré de droite. Donc, l'essentiel de la calotte est quand même accroché sur le continent, avec formation d'eau en base de calotte à cause des phénomènes qu'on a vus auparavant. Mais à ce niveau-là, on a contact avec l'océan, et donc on va pouvoir avoir, si l'océan se réchauffe, c'est ça les choses, vous l'avez compris, si l'océan se réchauffe en subsurface, on va pouvoir avoir un impact en fait sur la plateforme de glace. Et l'autre chose très importante dans ces plateformes de glace, c'est qu'elles ont tendance à retenir, à avoir un effet de contrefort sur la partie interne de la calotte. En d'autres termes, si on enlève de façon instantanée cette calotte de glace, la partie interne de la calotte a tendance à s'accélérer, à perdre sa masse. Donc ce sont des choses qui sont très étudiées, ces instabilités liées au contact de la calotte de glace, des calottes de glace avec l'océan. Et en particulier, il y a les chercheurs en glaciologie actuelle et passée ont distingué deux types d'instabilité, en particulier ce qu'on appelle MISI, qui veut dire Marine Ice Sheet Instability, qui est lié au fait qu'au niveau de la plateforme de ces ice shelves, de ces plateformes de glace, si l'océan a un flux de chaleur important, et en particulier si la pente de l'interface entre la calotte de glace et le substratum rocheux est rétrograde, c'est-à-dire que la pente va vers l'intérieur du continent, et bien dans ce cas-là, dès qu'il y a fonte de la glace par le dessous à cause de la chaleur océanique, et bien cette on peut avoir propagation de l'eau océanique au niveau de ce qu'on appelle la ligne d'échouage, qui est cette interface ici. On va pouvoir avoir par gravité, on va avoir un grignotage de la calotte de glace sous-jacente. Il y a un autre type d'instabilité qui a été défini par la suite, qui est appelé MICI, pour Marine Ice Cliff Instability. On a aussi un effet géométrique, quand la plateforme de glace se fractionne et forme des icebergs et se divise, on a un effet d'escarpement qui va être plus important. Bon, encore une fois, là, les hauteurs sont exagérées, mais on va avoir fragmentation avec cet escarpement qui va être, cette fragmentation va être préférentielle, et donc on va avoir une accélération, en fait, dans les deux cas, à la fois Mizi et Miki, vont engendrer une accélération de la perte de glace de la calotte elle-même si on perd la partie des plateformes de glace. C'est pour ça qu'elles sont très étudiées à l'heure actuelle. Et notamment, bon, là, je fais un aller-retour vers le présent, mais c'est pour cela en fait, qu'il y a effectivement à l'heure actuelle une grosse inquiétude sur la calotte antarctique et en particulier de l'Antarctique de l'Ouest. Parce qu'il faut savoir que l'Antarctique, l'énorme calotte antarctique, elle est basée essentiellement sur un continent, sur le continent antarctique, mais ce continent, la calotte, elle est que partiellement au-dessus du niveau de la mer. Ici, c'est une carte en fait, de l'Antarctique qui représente, avec des zones représentées en noir, toutes les zones où la calotte antarctique, sa base, est au-dessus du niveau de la mer. Les zones en gris foncé montrent les zones où la calotte antarctique est sous le niveau de la mer, et les zones représentées en blanc, ce sont les zones où non seulement la base de la calotte est sous le niveau de la mer, mais là où la pente est négative, c'est-à-dire qu'on a une pente rétrograde, et donc on peut avoir grignotage par gravité. Et donc le volume en fait, qui est au-dessus de cette partie de l'Antarctique de l'Ouest représente à peu près 3 mètres d'équivalent au niveau de la mer. Et en fait, l'inquiétude en fait, sur cette partie de l'Antarctique de l'Ouest est vraiment réelle. Et d'ailleurs, dans les projections qui ont été compilées récemment par le GIEC, il y a plusieurs projections sur l'évolution du niveau de la mer, qui varie entre 50 cm et 1 mètre suivant les scénarios. Mais il y a aussi une hypothèse haute qui diverge vers 1,50 m et qui est liée justement à une déstabilisation partielle qui est pour l'instant, les scientifiques, les climatologues considèrent que c'est peu probable, mais c'est en partie lié justement à ces phénomènes d'accélération au niveau de l'Antarctique de l'Ouest. Ici, vous avez un schéma qui représente justement ce phénomène avec calotte antarctique, ligne d'échouage avec une pente rétrograde qui permet justement au phénomène de s'amplifier et de faire perdre de la masse à la calotte antarctique. Alors c'est des choses, bon, encore une fois, l'Antarctique de l'Ouest, ça fait 3 mètres de niveau de la mer, c'est beaucoup, hein, fort heureusement, justement, c'est assez improbable, donc ça va peut-être ajouter 50 cm, et c'est ça qui est c'est pris en compte, et dans les dernières projections compilées par le GIEC, c'est l'hypothèse vraiment haute, peu probable, mais qui est quand même pas à exclure. Mais par contre, il y a déjà des signes en fait, de faiblesse de ces plateformes de glace. Et il y a eu plusieurs exemples en fait, d'effondrement récent de plateformes de glace, plutôt au niveau de la péninsule antarctique. Donc ici, je vous montre en fait, quelques photos satellites et de la plateforme, d'une plateforme de la péninsule antarctique, où en 1995, et en 2002, il y a eu effondrement et formation d'icebergs de façon instantanée sur une plage très importante avec un effet de d'écoulement préférentiel ensuite de la calotte elle-même qui vient carrément envahir l'océan avec donc cet effet de perte de l'effet de contrefort lié à cette plateforme de glace qui est très épaisse, encore une fois. Il s'agit de glace, ce n'est pas de la banquise, c'est de la glace de mer. C'est de la glace continentale qui déborde ensuite sur la mer. Ici, là, je vous montre une... Il y a une petite animation avec l'Antarctique, donc encore une fois, Antarctique de l'Est, Antarctique de l'Ouest, et on va voir ici cette péninsule antarctique, et si les choses veulent bien fonctionner, vous allez voir qu'on va voir apparaître cette débâcle, c'est un montage photo de photos satellites, qui va vous montrer cet effondrement instantané en 2002 de la plateforme Larsen B avec de façon... Alors, c'est énorme au point de vue surface. Hein, c'est, bon, encore une fois, à la NASA, les comparaisons sont faites à chaque fois avec des États américains. C'est, cet effondrement correspond à la taille de l'État du Rhode Island. Je ne sais pas ce qu'il faudrait prendre comme département français ou comme pays européen pour avoir à peu près cette surface. Mais c'est des surfaces et donc des volumes de glace qui sont très importants, mais encore une fois, qui ne bon, font pas un mètre de niveau de la mer. Mais... on voit donc l'influence de ce contact entre l'océan et les calottes de glace, en particulier la calotte antarctique. Alors c'est vrai aussi des glaciers un peu plus petits. Par exemple, ici vous avez quelques photos d'un glacier particulier qui a accès à l'océan au Groenland, le glacier de Jakobshavn dans le fjord d'Ilulissat, avec c'est un glacier en fait qui s'est accéléré de façon très importante dans les années 2000, au début des années 2000. C'était le glacier le plus rapide à l'époque. Ici, vous avez donc une mesure des vitesses en kilomètres par an et une accélération au cours du temps pendant de 1985 à 2006. Donc une accélération très importante. Et en fait, il y a eu plusieurs hypothèses qui avaient été proposées, et quelques années après, en fait, des mesures ont été compilées de température en subsurface et ont montré en fait qu'une partie du problème, ou peut-être toute l'explication, venait en fait du réchauffement océanique en subsurface. C'est-à-dire, ici, il s'agit de compilation de températures mesurées dans l'océan, en mer du Labrador, en fait, à différentes époques, depuis 1991 jusqu'à 2006, avec les anomalies de température exprimées en degrés Celsius, mais pour la frange de subsurface, entre 150 mètres et 600 mètres de profondeur, et on voit très nettement donc, un effet de réchauffement qui est lié à un réchauffement du courant d'Irminger, qui a donc grignoté par le dessous ce glacier qui venait déborder sur la mer. Alors c'est quelque chose qui s'est arrêté ensuite. Le réchauffement océanique ici n'a pas perduré et donc le glacier s'est un peu stabilisé, mais continue à perdre de la masse. Ici il s'agit d'une photo satellite qui montre le glacier de Jakobshavn en 2019. Donc vous avez ici tous les petits icebergs dans le fjord avec directement la calotte de glace du Groenland qui est ici et donc un flux de glace très important qui va à l'océan en permanence. Alors, ce sont des choses qui sont très difficiles à représenter de façon explicite dans des modèles, mais néanmoins, c'est ça qui doit être fait, parce qu'en fait, la modélisation, je vous ai dit, à chaque fois, les modèles sont complets, c'est des modèles qu'on utilise pour les projections de fin de siècle, mais en même temps, ces modèles, il faut un jour qu'ils soient capables de tout représenter sans avoir à faire des choses un peu artificielles, qui est d'imposer le gaz carbonique, d'imposer des anomalies hydriques, enfin, d'imposer des choses qui sont en fait des rétroactions du système climatique, mais qui sont considérées finalement comme des forçages dans le calcul. Alors, donc pour bien faire, il faut effectivement coupler des modèles d'écoulement des calottes, pas uniquement un modèle analytique comme Macaillal l'avait fait avec des équations élégantes mais analytiques et qui ne permettent pas de représenter de façon tridimensionnelle les phénomènes et de les coupler en particulier avec des modèles 3D océan-atmosphère. Et c'est quelque chose qui a commencé à être réalisé par beaucoup d'équipes de modélisation. Ici, il s'agit d'un travail collectif qui est avec une contribution française, en particulier de Grenoble et de GIF importante, où les chercheurs ont couplé en fait, un modèle d'écoulement tridimensionnel réaliste de l'écoulement des calottes, en particulier Laurentides et Groenland, avec un modèle simplifié climatique, un modèle qu'on qualifie d'émique. Et ici, c'est juste des petites figures qui montrent en fait, enfin qui suggèrent que l'écoulement est représenté de façon explicite. Ce qui est représenté ici, c'est un peu le résultat final de leur calcul avec la perturbation de subsurface que je vous ai montré dans le modèle. C'est en fait le même modèle que ce qui a été le modèle de complexité intermédiaire qui montrait dans certains cas un réchauffement en subsurface. Eh bien, quand ce modèle est couplé avec un modèle représentant en 3D l'écoulement de la calotte Laurentide, eh bien, ça a un impact en fait sur les écoulements et en particulier sur les plateformes de glace qui étaient formées au niveau du Labrador, parce que la calotte Laurentide avait accès directement à la mer. Et donc, ce qui est représenté ici, tout calcul fait, ce sont les anomalies de vitesse de la glace dans la calotte Laurentide, donc il faut imaginer 4 km de glace, représentée de façon réaliste dans le calcul, avec une vitesse qui va s'accélérer à cause de ce phénomène de réchauffement lié au réchauffement en subsurface, avec, bon là il s'agit d'une représentation réaliste au cours du temps, mais avec, une, avec un forçage hydrique imposé quand même, qui produit donc une anomalie de vitesse vers 17 000 ans, donc, correspondant donc, à cet événement H1, avec donc, une anomalie avec formation et perte de masse. Donc il y a aussi d'autres cartes qui montrent les pertes de masse, de pertes d'altitude. Et essentiellement, perte de masse avec des anomalies, carrément des fleuves de glace qui vont aller vers l'océan. Alors, juste pour illustrer aussi les choses, ce sont des choses qui sont observées. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec les satellites, il est possible de mesurer par interférométrie les mouvements de la glace en Antarctique et de cartographier et de voir si les choses évoluent dans le temps. Donc ça, c'est juste une des premières cartes de réaliser avec le satellite Radarsat au niveau de l'Antarctique, au niveau de la plateforme de Ross, avec le glacier, enfin la calotte antarctique et des glaciers avec des vitesses instantanées qui varient suivant l'endroit où l'on se place et qui peuvent évoluer dans le temps. Donc c'est ça qui est étudié pour aller évoluer, pour aller déboucher vers la plateforme de Ross. Donc ces fleuves de glace, eh bien, ont été exacerbés à cause de ce réchauffement en profondeur pour avoir un impact en fait sur la déglaciation. Donc dans le cadre de leur article, en fait, ce que ces chercheurs ont proposé, c'est qu'en fait il y avait explication avec ce mécanisme du fait qu'il y a deux phases dans l'événement au sens large Heinrich qui dure depuis 18 000 ans jusqu'à 14 500 avant le présent. L'événement de Heinrich, en fait, il serait, c'est-à-dire au sens strict, c'est-à-dire la partie avec les IRD, avec les icebergs, avec la débâcle de la calotte Laurentide, en fait, ce serait uniquement la deuxième phase et ce serait juste une réponse en fait, à la baisse de l'AMOC. Donc, ce n'est pas la cause dans ce cas-là, c'est une rétroaction, c'est une réponse au réchauffement. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui va amplifier. C'est-à-dire que dès qu'on met des glaçons dans l'Atlantique Nord, ça va avoir un effet très important sur la densité, sur la salinité et donc sur la convection. Donc voilà, ça c'est un peu le résumé un petit peu du mécanisme qu'ils envisageaient. Avec sa part, il faut bien une cause, donc une fonte. Avec une hypothèse sur le fait que ça viendrait de la fonte de la calotte nord-européenne, fennoscandienne, via les rivières et les icebergs, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est imposé au calcul, hein, c'est artificiellement imposé à 18 000 ans, et ça a eu un impact en fait, sur la convection, sur la MOC, ça a eu un impact sur la température de surface, ça a un impact aussi sur... et ça crée encore une fois, dans le modèle, un réchauffement en subsurface qui a un impact sur la plateforme de glace de la Laurentide dans la mer du Labrador, et donc ça a comme conséquence en fait, de générer cette débâcle d'iceberg pour introduire ces fameux IRD dans tout l'Atlantique Nord. Et forcément, comme il s'agit à la fois d'icebergs, d'eau douce, ça a tendance à renforcer, c'est pour ça que c'est marqué plus ici, il s'agit d'une rétroaction positive, parce que cette anomalie d'eau douce liée aux icebergs a tendance encore plus à ralentir la convection de cette circulation amoc. Donc on a une perturbation qui va s'amplifier, on a une rétroaction positive. Alors ça ne peut pas diverger de façon indéfinie, parce qu'on sait que dans l'histoire de la Terre, du climat de la Terre, on est revenu à des périodes plus calmes. Alors en fait, il y a d'autres chercheurs c'était une proposition, c'est une proposition en fait d'explication de ces deux phases qui a été proposée au début des années 2010. D'autres chercheurs sont venus compléter le propos en essayant de comprendre comment les choses se sont terminées. notamment en particulier en tenant compte de phénomènes dont je vous ai déjà parlé, qui sont importants, qui sont les déformations glacio-isostatiques qui affectent la Terre entière. Je vous ai dit que lorsqu'on met des calottes de glace, c'est pas anodin, ça a tendance à déformer la croûte terrestre, et forcément, lorsque la glace fond, eh bien, le continent a tendance à remonter sous la calotte de glace, et au niveau des bourrelets périphériques, ça a tendance, bien évidemment, à descendre. Et donc ça, c'est vrai en permanence pendant toute la déglaciation. Et donc c'est vrai, en particulier, ce réajustement post-glaciaire, il a lieu aussi lorsqu'on a une débâcle qui peut avoir lieu sur des siècles ou voire des millénaires, et donc il faut considérer, dans la modélisation complète, il faudrait aussi tenir compte du réajustement isostatique post-glaciaire, au même titre qu'on tient compte de l'océan et de l'atmosphère et de la calotte de glace qui perd sa masse. Donc vous le voyez, si on veut effectivement un jour avoir des modèles qui soient complets, il faudrait carrément aussi avoir des modèles en interaction avec la géologie profonde, avec la géophysique. Donc ça devient extrêmement compliqué, mais bon, des tests ont pu être faits, et ça c'est un papier, en fait, le résumé d'un article un peu plus récent encore, qui a complété le propos là, de ce couplage de modèles 3D de glaciologique avec un modèle climatique, pour proposer en fait que ce réajustement isostatique a une influence et notamment pourrait contribuer à stopper la débâcle. Donc là, il s'agit de petites... Bon, enfin, le calcul est assez complexe, mais il s'agit de quelques vues illustratives qui montrent un petit peu le diagramme de principe. Donc au départ, on a contact entre entre l'océan et la calotte. Alors il y a même pas de... Dans cette représentation, il n'y a pas de plateforme. Il y a juste une falaise. Bon, pour les besoins du calcul, c'est plus simple. Mais encore une fois, pour bien faire, il faudrait carrément modéliser, il y a des modèles qui le font. Mais bon, donc là, dans ce modèle-là, le contact entre la glace et l'océan est simplifié. Dans le modèle est introduit une anomalie de chaleur en subsurface, donc un forçage de température avec une augmentation de température en subsurface. Vous le voyez, bon, c'est représenté ici avec une température plus importante, donc une couleur plus chaude, et donc ça a tendance à faire fondre et à engendrer donc une retraite accélérée de la calotte. Et en même temps, lorsque la calotte perd sa masse, eh bien, le continent va remonter. Et donc, à un certain moment, le continent va suffisamment remonter pour bloquer le passage de l'eau chaude vers l'interface calotte. Donc là, il s'agit bien évidemment d'un diagramme de principe, mais en faisant la modélisation explicite, on voit que ce sont des choses qui sont réalistes. On peut les simuler et montrer que c'est quelque chose qui peut contribuer à stopper une débâcle qui a débuté à cause de ce réchauffement de subsurface qui n'intervient pas tout le temps dans la modélisation, comme je vous l'ai dit. Donc les chercheurs complètent en particulier les modélisateurs, complètent de plus en plus, parce que ça coûte à la fois du temps de calcul et des efforts, essayent d'avoir des modèles de plus en plus complets, de plus en plus complexes, pour essayer de mieux simuler ces phénomènes. Et ici, là, je vous présente... quelques vues, en fait, pour terminer, sur un des modèles les plus complets, qui est un modèle qui est réalisé et qui est utilisé à l'Institut Max Planck de Hambourg, l'Institut de météorologie. Donc, il s'agit d'un GCM complet, entre guillemets, à chaque fois, parce que, encore une fois, c'est un GCM, donc un modèle de circulation générale qui représente explicitement l'atmosphère, l'océan en couplage interactif, avec une biosphère, c'est pour ça qu'il y a un B ici, mais cette biosphère, ce n'est pas elle qui produit le CO2, l'évolution du CO2. Ce n'est pas un modèle qui est complet, puisqu'en fait, on est obligé d'introduire des forçages de façon artificielle, mais bon, OAB, et avec une calotte, des calottes de glace qui sont représentées de façon explicite avec des modèles 3D d'écoulement et qui représentent de façon réaliste les interactions. Et là, il y a une interaction réaliste, c'est-à-dire que la fonte de glace va avoir un impact sur l'océan et la température atmosphérique va avoir un impact sur la calotte. Donc là, on a une pleine interactivité. Et ce que montre en fait le calcul, c'est que leur calotte de glace interactive réaliste, beaucoup plus complexe, bien évidemment, que le calcul de Mackayal analytique, a un comportement binge-purge est caractérisé par aussi des résonances internes, d'instabilité interne caractéristique. Il y a d'autres modèles qui avaient montré ça, mais là, il s'agit d'un modèle donc, réaliste, mais qui est couplé maintenant avec l'océan et l'atmosphère. Donc le modèle, de façon spontanée, va générer cette instabilité à cause de cette accumulation de glace, formation d'une couche d'eau en base de calotte et formation donc d'une couche de lubrification qui va attendre à générer cette débâcle. Et alors, ce qui a été observé dans la modélisation, avec une modélisation qui dure plusieurs siècles, enfin, l'événement dure plus qu'un millénaire, c'est qu'il y a en fait deux phases. Ils arrivent à montrer qu'il y a deux phases, comme ce que l'on observe dans les données, mais avec ce qu'ils ont distingué, une phase de débâcle et une deuxième phase de refroidissement post-débâcle. La phase de débâcle, eh bien, c'est la phase qui correspond au flux d'iceberg, qui est liée aussi avec... ici, il s'agit de cartes qui vous représentent les anomalies de température pendant la phase de débâcle, les températures de l'océan et les températures atmosphériques. Donc au-dessus de l'océan et bien évidemment sur le continent, lorsqu'on est sur le continent, pour la phase débâcle et pour la deuxième phase de l'événement en lui-même. Et donc on a un refroidissement généralisé pour tout l'Atlantique, à la fois dans l'atmosphère et dans l'océan, qui est lié au flux de chaleur, à l'arrêt de la circulation méridienne. On voit une bulle chaude ici, qui n'est pas liée à... Enfin, qui est lié au fait que l'altitude de la calotte de glace diminue. Donc, comme le gradient altitudinal de température est décroissant, forcément, si l'altitude diminue, on va avoir un réchauffement. Ça correspond juste au changement de l'altitude, mais ça a des conséquences parce qu'en fait, quand on change l'altitude d'une calotte de glace, ça va avoir tout un tas de conséquences sur la circulation atmosphérique, sur les jet streams et autres. Donc tout calcul fait, en fait, ils arrivent à montrer qu'en fait, la première phase est la phase de débâcle qui produit les icebergs avec les IRD. Enfin, ils ne mettent pas de débris rocheux dans la modélisation, mais c'est pendant cette première phase qu'il y a projection d'iceberg dans l'Atlantique Nord, et une deuxième phase qui est liée à la perturbation de la circulation atmosphérique, liée en particulier à l'effet de l'altitude de la calotte Laurentide, et donc à un refroidissement qui perdure, qui est moins intense. Ils ont fait, alors dans la modélisation, il y a aussi calcul avec ce GCM complet, entre guillemets, il y a aussi calcul des salinités. Ici, il s'agit de, à la fois pour la phase de débâcle et de post-débâcle, vous avez ici les diminutions de salinité. Il s'agit, c'est exprimé en unité de salinité. Donc on voit une perturbation, une diminution de la salinité, pratiquement pour tout l'Atlantique Nord. Les icebergs fondent. Hein, on voit qu'ils vont carrément jusqu'à la marge ibérique, jusqu'au sud de la marge ibérique. C'est bien ce qu'on avait vu dans nos enregistrements il y a plus de 20 ans. Et ils simulent aussi la glace de mer. La deuxième phase, par contre, elle est dépourvue, elle, d'anomalies de salinité au niveau du Portugal. Bon, à l'heure actuelle, donc, je voulais vous montrer en fait, cette modélisation qui est une des plus récentes. Il y en a eu encore d'autres en 2021 et 2022, mais c'est une des plus réalistes. Et pourtant, même si le modèle est le plus sophistiqué, où là, on a véritablement couplage avec un modèle, un des meilleurs modèles atmosphériques océanique couplé avec une calotte de glace réaliste en couplage interactif, ce que montre en fait le modèle, c'est finalement un peu le contraire de ce qu'on voit dans les sédiments. C'est-à-dire que là, la phase de débâcle, elle est liée au comportement interne de la calotte de glace. C'est pendant cette première phase que les IRD devraient apparaître, alors que c'est un peu le contraire, c'est effectivement le contraire de ce qu'on voit. Et on voit, par exemple, ici, qu'il n'y a pratiquement plus d'anomalies de salinité pendant la deuxième phase, alors que, en tout cas, pour ce qu'on a regardé, et puis il y a d'autres d'autres informations dans beaucoup d'autres sédiments qui montrent en fait que l'anomalie de salinité était aussi à perdurer pendant toute la phase, pendant la deuxième phase. Donc, encore une fois, une complexité qui tend à être de mieux en mieux modélisée, mais finalement, à chaque fois qu'on ajoute un volet de complexité, on s'aperçoit que c'est pas forcément, on n'améliore pas forcément la comparaison avec les données, mais encore une fois, c'est, je dirais que des deux côtés, il y a comparaison, et de toute façon, on n'y coupe pas, c'est-à-dire qu'il faudra, pour que ce soit réaliste, il faut absolument qu'il y ait couplage interactif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de modèles océan-atmosphère où on va perturber de façon artificielle en mettant ou de façon artificielle, en imposant un changement de température en subsurface. Il faut absolument qu'il y ait couplage interactif, et c'est quelque chose qui augmente. Et c'est, bon, encore une fois, c'est les progrès qui sont réalisés sur ces modélisations du passé, c'est les mêmes modèles en fait, qui sont utilisés hein, pour les simulations futures, et en particulier pour la compréhension qu'on a là, à l'heure actuelle, qui est meilleur que ce qu'on avait il y a 20 ans, mais qui n'est pas encore idéal, comme je viens de vous le montrer, avec plusieurs hypothèses, avec plusieurs modèles qui ne sont pas forcément compatibles, elle est très importante, parce que ces mêmes phénomènes interviennent à l'heure actuelle en Antarctique, et le fait de les étudier dans ces modèles, avec des couplages interactifs entre calotte et modèle océan-atmosphère, est absolument fondamental pour essayer de comprendre ces interactions. Et donc c'est pour ça en fait que les mêmes instituts qui font de la modélisation future utilisent ces données du passé avec des événements extrêmes. Encore une fois, les événements de Heinrich, hein, il faut encore une fois imaginer des icebergs arriver au niveau du détroit du Gibraltar provenant de la mer du Labrador. C'est colossal. Et donc des anomalies beaucoup plus importantes que ce qu'on voit depuis un siècle, mais important, il est fondamental de pouvoir bien les comprendre, pour avoir une confiance en fait dans la modélisation tridimensionnelle qui se complexifie de plus en plus avec ces modèles tridimensionnels. Alors je vais m'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. Je n'ai pas terminé encore de vous parler de la déglaciation, parce que là, pour l'instant, j'ai uniquement envisagé une petite partie. Et en particulier, je ne vous ai pas encore parlé du gaz carbonique. Je vous l'ai dit tout à fait au départ, quand on fait des compilations de tous les changements de température pendant la déglaciation, on obtient cette courbe grisée ici de changement de température qui monte, qui présente une transitoire, etc., qui suit la paie de CO2 qui est mesurée dans les bulles d'air des carottes de glace, qui monte de 100 ppm, donc l'équivalent de ce qu'on a fait depuis un siècle, de façon précoce, hein, qui démarre vers 18 000 ans, et le fait que la paie de CO2 démarre à 18 000 ans, c'est pas du tout indépendant justement de ces changements de circulation océanique, c'est ce qu'on verra l'année prochaine, donc dans la suite du cours sur cette transition post-glaciaire qui est en fait très très riche, c'est que cette augmentation de l'effet de serre, il est partiellement lié avec cette augmentation qui intervient de 18 000 ans à 14 500 ans avant le présent, elle est liée, cette augmentation, au comportement de l'océan. On va voir que c'est essentiellement lié au rôle de l'océan austral, et en fait c'est le CO2 qui provient de l'océan profond qui va passer de l'océan vers l'atmosphère, et donc un jour peut-être il y aura des modèles qui permettront de simuler, alors on verra ça l'année prochaine, mais des essais de modélisation, mais les modèles complets devront un jour modéliser à la fois les calottes de glace de façon réaliste et la formation de cette anomalie de CO2, pas de façon imposée dans le calcul, mais de façon explicite avec un dégazage provenant de différentes sources. Donc on verra ça un peu l'année prochaine dans le détail. Je vous montrerai aussi ce qui s'est passé pendant toute la même période, pendant toute cette déglaciation, au niveau de la calotte de l'Antarctique. Pour l'instant, je n'ai parlé que de ce qui s'est passé en Arctique, au niveau de la Fennoscandie et de la Laurentide. Je vous parlerai aussi de ce qui s'est passé dans les zones intertropicales avec des changements qui vont être très différents, essentiellement liés au cycle de l'eau. Et on verra aussi un peu plus de détails sur un deuxième événement transitoire, donc ici l'événement de H1 au sens large. Il y a un deuxième événement qu'on voit pendant la déglaciation, même quand on fait une compilation à l'échelle mondiale, ici, un événement transitoire, un refroidissement qui est très marqué en Atlantique Nord, qui correspond à une période centrée vers 12 000 ans avant le présent, qu'on appelle le Dryas récent, ou Younger Dryas en anglais, et on va voir quelles sont les théories autour de cette transitoire qui correspond au point de vue timing, au point de vue temporel. 12 000 ans, ça correspond exactement au maximum de l'insolation, donc c'est complètement contre-intuitif. On a exactement au moment où la théorie astronomique nous prévoit un maximum d'insolation dans l'hémisphère nord qui a tendance à faire fondre, eh bien, on a un coup de froid. Donc c'est assez étrange, et je vous montrerai aussi qu'il y a certains auteurs qui prétendent qu'il y aurait eu une météorite qui... on verra je ne dévoile pas trop les différentes théories, mais donc on envisagera en fait les différentes théories qui entourent justement et qui restent, qui laissent un petit peu cet événement transitoire vers 12 000 ans encore mystérieux, avec plusieurs théories bien acceptées et une autre un petit peu controversée liée au fait qu'il y aurait eu une météorite qui aurait tué les mammouths à 12 000 ans. Donc nous verrons, que nous envisagerons l'année prochaine. Donc beaucoup de choses encore à faire pendant cette période de la déglaciation, qui est un cas d'école d'étude du climat, à la fois pour tester les modèles et en même temps pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer dans le futur. Donc voilà, je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui. À l'année prochaine pour la suite du cours. Et je vous donne rendez-vous quand même aussi le 10 juin pour le colloque sur la variation de la circulation globale de retournement qui se tiendra ici même le 10 juin. Je vous remercie de votre attention.